Chapitre 19. La quête commence. Oasis, planète solitaire par excellence, seul et unique satellite d'un soleil orphelin dérivant aux abords immédiats des vastitudes intergalactiques, était désormais en état de siège. Au sens strictement militaire du terme, on pouvait bien parler de siège, car aucune région de l'espace de ce côté de la galaxie, au-delà de 20 parsecs, n'était hors de portée des bases avancées du mulet. Au cours des 4 mois qui s'étaient écoulés depuis la chute fracassante de la Fondation, les communications d'Oasis s'étaient trouvées coupées, comme une toile d'araignée sous le fil du rasoir. Les vaisseaux d'Oasis avaient tous reflué vers leur monde d'attache, et la planète elle-même n'était plus maintenant qu'une gigantesque base de combat opérationnelle. À d'autres égards, l'état de siège était plus prononcé encore, car déjà l'ombre du désespoir et de la catastrophe pesait sur ce monde. Beïta suivit par habitude la travée rose, passant devant les rangées de tables au plateau en matière plastique laiteuse, et s'assit à sa place machinalement, sans même y penser. Elle s'installa sur sa chaise à dossier droit, répondit mécaniquement aux salutations qu'elle n'entendait qu'à moitié, frotta ses yeux là d'une main non moins lasse, et entreprit de consulter le menu. Elle eut le temps d'éprouver une violente réaction de dégoût en constatant la présence de divers plats de moisissures cultivées qui étaient considérés sur Oasis comme des mets délicats et que, en tant que native de la Fondation, elle trouvait naturellement immangeables. Puis, elle s'aperçut qu'on sanglotait auprès d'elle et leva les yeux. Jusqu'alors, elle n'avait guère prêté attention à la présence de Judy, une blonde insignifiante, au nez en trompette, assise presque en face d'elle. Mais voilà que Judy pleurait, mordant fébrilement un mouchoir trempé et refoulant ses sanglots, son pâle visage marbré de rouge. Elle avait rejeté sur ses épaules sa tenue anti-radiation et son casque transparent était tombé dans son dessert, sans qu'elle parût y prêter attention. Beïta alla rejoindre les 3 filles qui se relayaient pour appliquer la technique habituelle, notoirement inefficace mais sans cesse renouvelée en pareil cas, consistant à tapoter l'épaule de la personne à consoler et à lui caresser les cheveux en lui murmurant à l'oreille des paroles inintelligibles. « Qu'est-ce qui se passe ? » chuchota-t-elle. L'une des filles se tourna vers elle et haussa les épaules discrètement. « Je ne sais pas. » Puis, sentant que son geste était peu efficace, elle tira Beïta à part. « Je crois qu'elle a eu une journée difficile. Et elle s'inquiète pour son mari. Il est en patrouille dans l'espace ?
Oui. »
Beïta tendit vers Judy une main amicale. « Et si vous rentriez chez vous, Judy ? » fit-elle d'une voix dont le ton ferme contrastait avec les platitudes d'usage auxquelles la jeune fille avait eu droit jusque-là.
« J'ai déjà manqué une fois cette semaine. »
annonça Judy en levant la tête. On la sentait presque vexée. « Alors ça fera 2. » Si vous essayez de rester quand même, vous savez, vous manquerez 3 jours la semaine prochaine. Alors rentrer chez vous maintenant, c'est faire preuve de patriotisme, finalement. Est-ce que l'une d'entre vous travaille dans son service? Bon, si vous vous occupiez de sa carte. Mais vous feriez mieux de passer d'abord aux toilettes, Judy. Les pêches à la crème, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux pour décorer les casques.
Allez,
filez donc. Beïta regagna sa place et reprit le menu. Avant tout, éviter la contagion. Avec la tension qui régnait depuis quelque temps, une fille en pleurs suffisait à plonger dans l'hystérie tout un service. Beïta se décida à contre-cœur, pressa à côté d'elle les boutons correspondant à son choix, puis elle remit le menu dans son logement. Elle s'aperçut que la jeune femme élancée à la peau brune qui était assise en face d'elle était en train de lui parler. Pleurer. C'est à peu près tout ce qui nous reste à faire, finalement. Ses lèvres, étonnamment charnues, remuaient à peine, et Beïta remarqua qu'elle arborait ostensiblement ce demi-sourire artificiel qui était, semble-t-il, si à la mode sur Oasis depuis quelque temps. Pour toute réponse, Beïta se contenta de battre des paupières, tout en se demandant ce que la jeune femme cherchait à insinuer au juste. Soudain, le dessus de sa cubitable se rétracta, et son plateau repas fit son apparition automatiquement. Elle accueillit avec soulagement la diversion. Déchirant avec soin l'emballage où se trouvaient ses couverts, elle les réchauffa tant bien que mal entre ses mains. « Et vous, Ella ? Vous faites quoi, vous pleurez aussi comme les autres ? » finit-elle par demander à sa voisine. « Oh non, » répondit Ella. « Moi non. » D'un geste étudié, elle lança le mégot de sa cigarette dans le petit réceptacle prévu à cet effet, et l'éclair silencieux se chargea de le faire disparaître avant même qu'il eût touché le fond. « Par exemple, » dit Ella en croisant ses mains soignées sous son menton, « je pense que nous pourrions conclure un accord avec le mulet et faire cesser toute cette absurdité. Mais moi, je ne dispose pas des moyens nécessaires pour aller me mettre à l'abri quand le mulet arrivera. » Beïta ne broncha pas. Elle reprit d'un ton léger et indifférent. « Vous n'avez pas de frère ni de mari en mission de combat, n'est-ce pas ? Non. » « Et j'aggrave mon cas en ne voyant pas de raison valable au sacrifice des frères et des maris des autres. » « Le sacrifice sera d'autant plus certain si nous devons capituler. » « La Fondation a capitulé. » « Et elle connaît la paix. » « Nous, nos hommes sont partis se battre et la galaxie tout entière est contre nous. » Beïta haussa les épaules et dit d'un ton suave. « Je crois malheureusement que c'est surtout le premier de ces deux inconvénients qui vous gêne. » Elle tourna alors toute son attention vers son plat de légumes et le termina douloureusement, consciente du lourd silence qui régnait désormais autour d'elle. Pas une seule des personnes susceptibles d'avoir entendu les remarques cyniques d'Ella n'avait seulement pris la peine d'y répondre. Beïta se hâta de sortir après avoir pressé le bouton qui libérait sa cubitable pour le prochain occupant. Une petite nouvelle, assise à trois sièges de là, murmura en aparté à Ella.
C'était qui ?
C'est la nièce de notre coordinateur, répondit Ella avec une moue indifférente de ses lèvres expressives. Tu ne savais pas ?
Ah ouais ? C'est dingue !
Dit l'autre en suivant Beïta des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu.
Qu'est-ce qu'elle fait ici ?
On l'a mise aux chaînes de montage, comme les autres. C'est à la mode d'être patriote, tu savais pas ? C'est d'un démocratique tout ça. Ça me donne envie de vomir, tiens.
Tu exagères, Ella, dit la fille enveloppée qui se trouvait à sa droite. Elle ne nous en a même pas encore parlé de son fameux oncle. Laisse tomber, va.
Ella toisa sa voisine d'un regard méprisant et alluma une autre cigarette. La nouvelle écoutait la comptable aux yeux brillants assise en face d'elle, qui pérorait avec animation.
Et il paraît qu'elle était dans la crypte, mais vraiment dedans, comme invitée et tout, quand celle donne à parler. Et il paraît que le maire était dans tous ses états, qu'il y a eu des bagarres et tout, c'est dingue. Elle s'est enfuie avant l'arrivée du mulet. Et il paraît qu'elle a fait un voyage épouvantable, qu'elle a dû franchir le blocus.
Je me demande pourquoi elle n'en fait pas un livre, avec la popularité qu'ont les livres de guerre de nos jours.
Et puis, il paraît qu'elle a été sur la planète du mulet aussi, là, Kalgan. C'est dingue, non ? Et...
La sonnerie retentit et la salle à manger se vida lentement. La comptable continuait son récit. Interrompu seulement au moment adéquat par les
« Ah ouais, c'est dingue !»
de la nouvelle. Les puissants éclairages défléchis, censés tromper une éventuelle attaque aérienne, étaient maintenant occultés par groupes, dans une lente progression vers l'obscurité annonciatrice du sommeil pour les gens vertueux et travailleurs, lorsque Beïta rentra chez elle. Toran l'accueillit sur le seuil, une tranche de pain beurré à la main.
« Où étais-tu ? »
demanda-t-il la bouche pleine. Puis d'une voix plus distincte, « J'ai improvisé une sorte de dîner. C'est pas grand-chose, ne me le reproche pas. » Mais elle lui tournait autour en l'examinant avec des yeux ronds.
« Thor ? Où est ton uniforme ? Qu'est-ce que tu fais en civil ?»«
Ce sont les ordres, Bey. Randu est planqué quelque part avec Ebling Miss, et du diable si je sais à quoi tout ça rime. »
Voilà. Tu sais tout.
Est-ce que je pars ? Demanda-t-elle en s'approchant de lui tout à coup. Il l'embrassa avant de répondre.
Je crois.
Ce sera sans doute dangereux.
Qu'est-ce qui n'est pas dangereux ?
C'est bien vrai.
Oh, à propos, j'ai déjà fait chercher Magnifico, il doit donc venir aussi.
Tu veux dire que son concert à l'usine des moteurs devra être annulé?
Évidemment.
Beïta passa dans la pièce voisine et s'assit devant un repas qui offrait tous les signes de l'improvisation. Elle coupa les sandwichs en deux d'un geste précis et dit « C'est dommage pour le concert. » Les filles de l'usine l'attendaient avec impatience. Magnifico aussi, d'ailleurs. Le pauvre. Il est tellement bizarre, quand même.
Il éveille ton complexe maternel, Bey. Voilà tout.
Un jour, nous aurons un bébé. Et tu oublieras Magnifico.
Il me semble, marmonna Beïta dans son sandwich, que tu éveilles bien suffisamment mon complexe maternel.
Elle reposa son sandwich et redevint en un instant parfaitement sérieuse.
Thor?
Oui?
Thor? J'étais à la mairie aujourd'hui, au service de la production. C'est pour cela que j'étais si en retard.
Que faisais-tu là-bas?
Eh bien, hésita-t-elle.
Ça empire.
Je ne pouvais plus supporter de rester à l'usine. Le moral est très bas. Les filles éclatent en sanglots sans raison. Celles qui ne tombent pas malades se mettent à déprimer, elles font la tête à tout le monde. Même les petites rigolotes de service se mettent à répondre de travers pour un oui ou pour un non. Dans mon secteur, la production n'est plus le quart de ce qu'elle était quand je suis arrivé. Et il n'y a pas un jour où nous soyons au complet.
D'accord, répondit Thoran. Mais ça ne me dit pas ce que tu faisais au service de la production.
J'ai été leur poser quelques questions. Et j'ai toutes les réponses que je voulais.
C'est comme ça partout sur Oasis, Thor. La production baisse, la sédition se développe, ainsi que le mécontentement. Le chef de bureau s'est contenté de hausser les épaules après m'avoir fait faire antichambre une heure et ne m'avoir reçu que parce que j'étais la nièce du coordinateur. Et il m'a dit que tout ça le dépassait.
Franchement, je crois qu'il s'en fiche.
Voyons, ben, ne dis pas des choses comme ça, je t'assure, dit-elle d'un ton farouche. Je te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai eu le même sentiment dans la crypte, quand Seldon nous a abandonnés. J'ai ressenti une intense déception, quelque chose de terrible, d'insurmontable.
Tu as éprouvé cela, toi aussi, je le sais bien.
En effet.
Eh bien, reprit-elle avec la même ardeur, ça recommence. Nous ne pourrons jamais résister aux mulets dans ces conditions. Même si nous avions du matériel, nous n'avons pas le cœur, l'âme, la volonté.
Thor. C'est inutile de se battre.
Thoran ne se souvenait pas d'avoir jamais vu Beïta pleurer. D'ailleurs, elle ne pleurait pas en ce moment, pas vraiment. Mais Thoran posa doucement la main sur son épaule et murmura
« N'y pense plus, chérie.
Je sais ce que tu veux dire.
Mais il n'y a rien...
Non. Il n'y a rien à faire.
C'est ce que tout le monde dit.
Alors nous restons assis à attendre que le couteau s'abatte. » Elle reprit ce qui restait de son sandwich. Silencieusement, Thoran se mit à faire les lits. Dehors, il faisait complètement nuit.